bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette édition spéciale du Grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le Royaume-Uni n'avait pas connu une attaque terroriste de cette gravité depuis les attentats de Londres en 2005. L'attentat suicide d'hier soir à Manchester, à la sortie d'un concert, a coûté la vie à 22 personnes. Plusieurs blessés sont dans un état grave. En milieu de journée, l'État islamique a revendiqué cette attaque. La campagne britannique pour les législatives a été suspendue. Comme à chaque fois qu'un attentat se produit sur le sol européen, la question de la coopération antiterroriste est posée, avant même d'ailleurs qu'on en sache davantage sur l'identité de l'assaillant. Le premier réflexe est de considérer qu'une meilleure coopération aurait permis d'éviter un tel drame. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre indirectement Emmanuel Macron lorsqu'il réagit en promettant cet après-midi de renforcer celle-ci à l'échelle européenne. Pourtant, beaucoup a été fait ces dernières années en la matière. Europol, INSEN, Comité de coordination des centres antiterroristes, etc. En faut-il passer à l'étape supérieure désormais en créant par exemple une sorte de CIA européenne ou bien favoriser ce qui semble le mieux fonctionner aujourd'hui, à savoir les coopérations bilatérales? Lutte contre le terrorisme, peut-on encore mieux coopérer? Bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à nos invités, à commencer par vous, Olivier Chopin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Champagne à Reims. Vous enseignez la sécurité internationale à Sciences Po et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes par ailleurs chercheur associé à l'EHESS, spécialiste de renseignement. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions Armand Collin avec Benjamin Houdet, Renseignement et sécurité. Puis nous serons rejoints d'ici quelques petites minutes par le député européen Arnaud Danjean qui travaille lui aussi sur ces questions de renseignement et de sécurité. Olivier Chopin, je voudrais revenir sur les propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est rendu cet après-midi à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, non pas pour les faire commenter directement, mais plutôt pour ce qu'il se laisse entendre. Alors je reviens sur ces propos. Emmanuel Macron a dit sa volonté de renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Réaction directe à l'attentat d'hier à Manchester, ce qui laisse entendre que peut-être que si cette coopération avait été meilleure, l'attentat n'aurait pas eu lieu. Est-ce que c'est comme ça que vous le comprenez? Et en tout cas, est-ce qu'on peut considérer que si la coopération avait été meilleure, cet attentat aurait pu être évité? Olivier Chopin.
Ben, écoutez, je pense que comme vous le disiez à l'instant, il s'agit plus d'une sorte de formule imposée. C'est-à-dire il y a deux formules imposées après chaque attentat qui sont naturelles de la part des chefs d'État. Bon, à commencer par des États qui sont concernés par un attentat, c'est « nous ne céderons pas et nous résisterons et ces attentats ne nous feront pas fléchir ». Ça, c'est plutôt à destination des populations intérieures. C'est un message qui permet de rassurer et de restructurer un peu le lien de confiance.
Et ces propos-là n'ont pas manqué non plus d'ailleurs aujourd'hui.
C'est
ce qui est normal d'ailleurs.
Voilà, et le deuxième passage imposé qui est plus récent, hein, qui date de la matrice des attentats depuis 2004 en Espagne et 2005 au Royaume-Uni, et qui sont effectivement la question en quelque sorte d'une collectivisation de notre sécurité au travers des coopérations en matière de renseignement extérieur et éventuellement de contre-terrorisme intérieur. Donc c'est plus un passage obligé du discours qui ne pose pas en soi de diagnostic de l'état de nos coopérations, puisque comme vous le disiez, il y a beaucoup d'éléments qui, ces dernières années, ont quand même permis de renforcer beaucoup les dispositifs. La seule chose, c'est qu'en fait, quand on parle de coopération ou de collaboration, il faut déjà se poser la question de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de coopérations qui sont bilatérales ou multilatérales entre les États et qu'on pourrait qualifier de horizontales? Ou est-ce qu'il s'agirait d'une sorte de coopération, de coordination institutionnalisée au sein des institutions européennes et qui pourrait prendre la forme d'une structure un peu verticale permettant de vraiment répartir un partage des tâches, un peu comme ce qui se produit dans le renseignement militaire au sein de l'OTAN?
Alors donc justement,
là,
peut-être Olivier
volet,
Chopin.
N'existe pas.
Voilà, justement Olivier Chopin, peut-être avant d'aller sur ce qui pourrait être amélioré, parce qu'il y a toujours des améliorations qui peuvent être faites, et c'est normal, à partir du moment où la menace évolue, il est normal que les réponses évoluent également. Mais ce serait sans doute intéressant, en effet, de revenir sur ce qui a été fait ces dernières années en matière de coopération antiterroriste. Est-ce qu'on peut déjà considérer de manière générale que les attentats qui ont touché ces dernières années le sol européen, on pense bien sûr à ce qui s'est passé depuis 2015, notamment en France, mais si on remonte au-delà de 2005, les attentats de Londres, il y avait eu ceux de Madrid, en Espagne, est-ce que ça fait progresser, disons, la coopération antiterroriste européenne?
Alors, en elle-même, ça la fait pas vraiment progresser, ça crée un besoin plus clairement identifié. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord sur le discours et sur le fait qu'il faudrait mettre en place ces structures. Alors, comme vous le disiez, on a des structures, en fait. Bon, Europol a quand même poussé très très loin l'échange de fichiers de manière standardisée, si vous voulez, et automatisée entre les polices européennes. Il y a des contributeurs plus ou moins importants, évidemment, en fonction du niveau de menace chez eux et puis du travail de la police. Il y a aussi l'Union européenne qui s'est dotée d'un Intelligence Center, l'INSEN, hein, qui était avant un centre de situation, mais qui fait, si vous voulez, de l'analyse de haut niveau. C'est-à-dire qu'on fusionne les analyses déjà existantes des États membres pour produire un renseignement européen dit de haut niveau, c'est-à-dire qui analyse la menace de manière globale.
Alors, je voudrais justement aussi, d'ailleurs, qu'on s'intéresse, qu'on s'arrête un instant, Olivier Chopin, sur cette INSEN. Je dois dire que c'est en préparant, moi, cette émission que j'ai découvert, ou peut-être redécouvert, mais je m'en souvenais plus, cet organisme qui n'est pas le plus connu en la matière. Europol, on en a entendu parler. Eurojust, peut-être également. Frontex, qui participe aussi de la... d'une politique de sécurité, pas Absolument. Seulement, mais de l'Union européenne. Ça sont des termes qu'on connaît. INSEN, on connaissait peu. À quoi est-ce qu'on pourrait le comparer pour comprendre précisément le travail des analystes qui en font partie?
Alors écoutez, vous le disiez, est-ce qu'il y aurait une CIA européenne? Alors en fait, on ne peut pas le comparer à l'embryon d'une CIA européenne. Ce à quoi on peut le comparer, c'est soit à une structure qui s'appelle le Joint Intelligence Committee au Royaume-Uni et qui va faire le renseignement de haut niveau pour le gouvernement britannique en étant approvisionné par l'ensemble des services de renseignement britanniques, ou alors aux États-Unis, il y a un tout petit service qui est très peu connu dans le département d'État américain, dans la structure diplomatique, qui s'appelle Intelligence and Research, INR, et qui comporte des analystes qui, à nouveau, mettent en forme et priorisent, en quelque sorte, les analyses concernant l'état du monde et la menace. Donc c'est plus à ça que ça ressemble qu'à des services de type DGSI en France, ou DGSE, ou MI5 au Royaume-Uni, etc. C'est-à-dire que c'est plus un système, si vous voulez, de certification et de circulation des analyses par rapport à une menace, qu'un système opérationnel qui permet de détecter en tant que tel et encore moins d'entraver les menées terroristes.
C'est-à-dire parce que pour faire de l'analyse, il faut avoir des données, il faut avoir des informations. Ça veut dire que les différents services de renseignement nationaux au sein de l'Union européenne fournissent ces informations à cette INSEN qui ensuite, du coup, fait le tri et essaie de voir quelles peuvent être peut-être les lignes de force. Mais ce n'est pas en tout cas un travail qui est fait sur le terrain directement.
Non, pas du tout. La collecte, le recueil du renseignement et son traitement d'origine, c'est-à-dire sa vérification et sa mise en forme d'analyse, de fiche, est quand même toujours de la responsabilité des États. Et effectivement, il n'y a pas de structure de recueil propre à l'Union européenne. Donc c'est en fait un service qui est dépendant des États, et on sait de notoriété que parfois les États les plus producteurs de renseignements, ceux qui ont beaucoup de renseignements, de services de renseignement et beaucoup d'actions, le Royaume-Uni, la France, pourquoi pas la Belgique, sont pas forcément les plus donateurs de renseignements au sein de l'INSEN. Ça dépend des périodes et des politiques nationales. Donc c'est vrai, si vous voulez, que l'Union européenne est encore dépendante de cette prérogative qui, pour l'instant, reste, même dans les traités, parfaitement, enfin totalement rattachée aux États membres, qui est celle de la sécurité. Parce qu'en fait, en matière d'antiterrorisme, tout le monde doit coopérer pour se protéger mutuellement, mais la responsabilité première de chaque gouvernement est de porter le regard sur sa propre population et son propre espace national pour le sécuriser avant tout. Donc on est effectivement, pour l'instant, on n'a pas du tout l'idée de développer des capacités de recueil autonome qui seraient directement données au niveau de l'Union.
Quand vous dites que ça dépend des périodes, les niveaux de coopération, est-ce que justement lorsqu'un pays est touché par une attaque terroriste, ça provoque peut-être davantage de coopération, ou est-ce que ça n'est pas forcément lié à ce type d'actualité-là ?
Si, mais ça va sans doute plus prendre la forme des relations bilatérales qui préexistent et qui se font entre les services eux-mêmes et parfois entre des directions à l'intérieur des services, voire des rapports personnels entre les agents opérationnels. Parce que là, on ne parle plus du tout, justement, pour ce qui est de la détection éventuellement de l'intervention avant une menace terroriste. On ne parle plus du tout de cette espèce de schéma global d'analyse, mais vraiment d'une surveillance opérationnelle avec des moyens d'intervention que seuls les États peuvent développer.
Alors parlons justement, Olivier Chopin, de ces relations bilatérales. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, malgré un certain nombre d'instruments qui permettent d'aborder cette question de la lutte contre le terrorisme de manière assez globale, est-ce qu'aujourd'hui, les relations bilatérales sont celles qui sont les plus utilisées en matière de coopération antiterroriste ?
Oui, c'est sans doute les seuls qui sont vraiment opérationnels et donc utilisés au quotidien. Après, est-ce qu'elles sont bonnes ou moins bonnes? Bon, ça dépend beaucoup de configurations qui sont à la fois de politique intérieure à chaque fois, de doctrines sécuritaires qui sont... toutes les doctrines sécuritaires en Europe sont assez proches maintenant. Nous partageons la menace et nous partageons à peu près le référentiel de politique publique pour y faire face. Malgré tout, on n'a pas tous les mêmes sensibilités aux intrusions dans la vie privée qui seraient nécessaires d'après les services pour pouvoir garantir un certain nombre de sécurisations. On n'a pas tous les mêmes cadres légaux, on n'a pas tous les mêmes limites, on n'a pas tous la même doctrine d'emploi de la force à l'étranger agir en amont dans les foyers de menaces tels qu'ils se produisent. Donc, si vous voulez, par exemple, les Britanniques, après les attentats du 11 septembre, étaient très engagés auprès des Américains. Ils ont tenu le sud de l'Irak, les villes comme Bassora. Après l'intervention en Irak, il y a clairement une phase de retrait, pas d'isolationnisme ni de protectionnisme, mais en gros, l'armée britannique ne veut plus être en première ligne sur un certain nombre d'opérations qui sont menées à l'extérieur, quand la France, elle, va intervenir au Sahel, au Mali. Donc en fait, vous allez avoir des périodes qui font que des décisions de stratégie nationale vont plus ou moins se combiner entre elles. Après, évidemment, au quotidien, les échanges de données brutes sont quasiment automatisés. Les services échangent énormément d'informations, de notes de bas niveau, de moyens techniques. Il y a même des communalisations qui existent, mais qui sont évidemment très confidentielles d'un certain nombre de moyens, et qui font qu'on a quand même un niveau de, si vous voulez, le réseau des réactions européennes au terrorisme est très très étroit et très serré. Malgré tout, il n'empêche pas, comme un dispositif national ne peut pas l'empêcher lui-même, on ne peut pas réellement empêcher les attentats de se produire, parce que les terroristes, par définition, ont une contrôle de l'agenda sur le déclenchement d'une action.
Donc en tout cas, on peut dire que l'Europe aujourd'hui est dotée, même s'il y a sans doute encore des progrès à faire, d'outils qui permettent de faire de la coopération antiterroriste, que les politiques en la matière, sans être totalement harmonisées, se rapprochent, mais qu'il y a peut-être parfois un problème de perception. Nous a rejoint pour poursuivre la discussion avec vous, Olivier Chopin. Je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement, et je renvoie à nouveau à votre ouvrage co-signé avec Benjamin Houdet l'an dernier chez Armand Collin, Renseignement et Sécurité. Nous a rejoint par téléphone Arnaud Danjean. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député européen, vous siégez au Parlement européen au sein du groupe du Parti populaire européen, membre de la Commission des affaires étrangères, spécialiste des questions de renseignement. On a déjà évoqué la question de la coopération et des réactions qui ont pu être entendues depuis hier soir, mais peut-être surtout depuis ce matin, disant qu'il fallait peut-être davantage de coopération. C'est notamment en tout cas ce que laisse entendre le président de la République Emmanuel Macron. J'ai vu que sur votre compte Twitter ce matin, Arnaud Danjean, c'est quelque chose qui vous énervait. Je cite notamment un tweet. Quand les commentateurs commencent par « il faut plus de coordination en Europe », vous pouvez être à peu près certain qu'ils n'y connaissent rien en contre-terrorisme.
Oui, la virulence ne ressemble pas forcément en particulier sur ce genre de sujet, mais je dois avouer que ce réflexe de la part, j'ai dit les commentateurs, j'étais indulgent pour beaucoup de mes collègues politiques, parce que le réflexe depuis maintenant quelques années, malheureusement que nous sommes confrontés de nouveau à ce phénomène terroriste, le réflexe c'est de dire la solution c'est plus de coopération européenne. Moyennant quoi quand on dit ça, d'abord on ignore complètement ce qui se fait déjà, ou on semble ignorer complètement ce qui se fait déjà, et qui est déjà très intensif. Ça a été en partie rappelé par votre invité, et je souscris totalement à ce qui vient d'être dit à la virgule près. La coopération, elle est intensive au quotidien entre les services. Simplement, par définition, la coopération entre services de renseignement, elle n'est pas publique, elle n'est pas médiatique, elle n'est pas institutionnalisée au sens où on aime institutionnaliser les choses en cochant la case Bruxelles avec des institutions dédiées. Ça se fait sur un mode bilatéral, sur un mode trilatéral, de façon discrète, mais intensive. Donc d'abord, première ineptie, quand on parle de renforcer la coordination, on a l'impression de découvrir que c'est pas satisfaisant et qu'on a l'impression de dire que ça n'existe pas, alors que ça existe. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on signifie vraiment quand on dit ça? Parce que, encore une fois, si c'est pour créer une super agence européenne qui viendrait se substituer ou s'ajouter aux agences nationales, je ne vois pas tellement quelle serait la plus-value. D'abord parce qu'il y a un risque bureaucratique évident, et deuxièmement parce que déjà il est difficile de coordonner et d'intégrer nos services au niveau national sur un plan très opérationnel. Si on rajoute une strate à Bruxelles ou ailleurs, à l'échelle européenne, je crois pas qu'on améliore le travail de ceux qui sont au plus près de la menace sur le terrain pour essayer de déjouer ce genre d'attentat. Donc voilà, il y a des vraies questions qui se posent derrière cette formule un peu creuse, cette espèce de poncif qui revient toujours sur « il faut améliorer la coopération ». Sur le principe, oui, on peut toujours mieux coopérer, plus coopérer. Simplement, si on se retourne vers les professionnels, et c'est ça que j'incite nos politiques en particulier à faire un peu plus, retournez-vous vers les professionnels et demandez-leur de coopérer et de se coordonner un peu plus. Ils vont vous regarder avec les yeux écarquillés en disant « mais on fait ça à longueur de journée ». Il y a des personnes qui passent leur journée à ça, qui sont dédiées à ça. On a même, sur le plan opérationnel, beaucoup progressé. On a maintenant des équipes intégrées de plusieurs nationalités qui arrivent à travailler ensemble en matière d'antiterrorisme. Donc voilà, c'est vrai que ça m'agace un petit peu de voir ce poncif revenir de façon récurrente, systématique, alors même qu'un certain nombre de choses se font déjà et que pour terminer sur ce point, il faut bien être conscient que les prérogatives européennes en la matière sont extrêmement limitées. Et qui a limité les prérogatives européennes en la matière ? Ce sont les États membres eux-mêmes qui veulent garder un maximum de prérogatives au niveau national. D'ailleurs, moi, je ne les en blâme pas. Je suis tout à fait européen dans mon engagement, mais je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on est plus efficace en faisant de la coopération bilatérale, trilatérale. L'Europe peut apporter des choses, mais il faut être très précis sur ce qu'on veut faire à l'Europe. Et en l'occurrence, il y a des choses qui se mettent en place. L'harmonisation des législations antiterroristes, le toilettage et l'interopérabilité des différents fichiers qui existent, peut-être aussi le renforcement de certaines capacités communes de mutualisation, effectivement, que ce soit en matière de garde-frontières, que ce soit en matière de coopération policière. Et j'attire votre attention, la coopération policière, c'est pas exactement la coopération en matière de renseignement.
Alors justement, j'allais y venir, Arnaud Dangean et Olivier Chopin. Quand on parle de coopération, c'est vrai qu'il y a une coopération qui peut consister à trier, à analyser des renseignements, et puis une autre coopération qui va être sur le terrain. Est-ce que, du coup, ces différents types de coopération appellent les mêmes réponses et les mêmes types, disons, d'organisation, Olivier Chopin ?
Si vous voulez, la logique policière, c'est soit d'empêcher le fait qu'un crime soit commis, soit de punir celui qui a commis un crime après enquête. La logique du renseignement, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une logique de connaissance le plus longtemps possible, au plus près de l'événement possible, pour pouvoir détecter les menaces, les gens qui les portent et éventuellement leur projet. Et donc parfois, si vous voulez, on surveille tellement qu'on va réagir trop tard par rapport à l'action de la menace, mais la mission aussi des services, évidemment, est d'entraver les menées terroristes. Et là, simplement, le rapport entre la connaissance et l'action est très complexe à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut faire le bon choix, parce que si vous agissez trop tôt, vous allez vous priver des moyens de connaissance et de réaction pour des réseaux plus larges ou des actions futures. Donc simplement, voilà, la capacité de détecter et la capacité d'empêcher une menée terroriste sont deux choses différentes. Et donc là, effectivement, comme le dit monsieur le député, c'est parfaitement exact, coopérer en matière policière ou coopérer en matière de renseignement suppose des logiques très différentes, et c'est chaque État qui a la responsabilité ultime sur sa population, ensuite de prendre la décision d'intervenir en amont ou pas. On a des traces hein, quand même dans la presse, les journalistes, vous mentionnez souvent des opérations préventives, des arrestations de réseaux qui étaient sur le point d'agir, mais ça suppose qu'il y a un choix, qui est aussi un choix politique qui est fait par le décideur, donc ça suppose aussi qu'il y ait effectivement une forme de convergence des perceptions de la menace par les différents décideurs européens, et que nos hommes politiques en charge, en responsabilité, aient des idées très claires sur la question.
Alors justement, sur cette question de la convergence de la perception de la menace, Arnaud Dangean, vous qui êtes député européen, qui avez un poste d'observation intéressant par rapport à ça, est-ce que vous avez vu les choses évoluer au fil des années, au fil aussi de l'évolution de cette menace terroriste, et est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des États membres de l'Union européenne considèrent que le terrorisme est une menace absolue ? Ou bien est-ce qu'il y a encore un différentiel selon que le pays a été touché ou pas par des attaques terroristes ?
Eh bien, il y a un différentiel. La perception est différente. L'ordre des priorités n'est pas le même selon le pays où on se trouve. Et plus que le fait d'avoir été touché directement, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte pour établir ces priorités dans la perception de la menace. D'abord, le fait que sur les 4 à 5 000 citoyens européens qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak, c'est une évaluation, sur ces milliers de jeunes, il faut bien savoir que les pays d'origine de l'Union européenne, c'est à peine la moitié. C'est une grosse douzaine de pays qui ont fourni ces contingents de jeunes djihadistes. européen. Donc, d'entrée de jeu, quand on parle aujourd'hui le grand phénomène sur lequel on essaye de se positionner, sur lequel les services essayent de travailler et d'anticiper, c'est les fameux revenants, comme le dit votre excellent confrère David Thompson, bah, sur le phénomène des revenants, il n'y a que la moitié des pays européens qui se sentent concernés. Alors, le but de ceux qui sont directement concernés, c'est d'impliquer les autres en leur disant ils peuvent être touchés d'abord, et puis ils peuvent être des pays de transit, ils peuvent être des pays dans lesquels vont se développer des réseaux dormants justement parce qu'ils apparaissent un peu moins en première ligne. Donc voilà, mais c'est un travail quasi quotidien de conviction à mener auprès de la moitié des pays de l'Union européenne qui ne se sentent pas forcément concernés au premier chef.
Donc on est moins dans une problématique, Arnaud Dangean, de coopération des services des renseignements que de mobilisation politique.
Oui, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ça passe relativement inaperçu, mais je trouve que la Commission européenne fait plutôt bien son boulot en la matière. On a tendance à beaucoup la critiquer pour plein de raisons, mais en la matière, la Commission européenne a dit depuis le début, écoutez, nous, on n'a pas des prérogatives très extensibles en matière de sécurité intérieure et de lutte antiterroriste. En revanche, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est inviter à l'harmonisation des législations antiterroristes en Europe. Et ça, c'est extrêmement utile, parce que si vous n'avez pas les mêmes législations, si votre code pénal ne permet pas un certain type d'incrimination très en amont pour démanteler des réseaux terroristes, eh bien vous allez avoir en Europe le risque d'angle mort de pays dans lesquels des réseaux peuvent se développer là où ils seraient entravés beaucoup plus tôt ailleurs. Donc ce travail est en cours et je trouve ça tout à fait positif. C'est pas très spectaculaire, ça ne répond pas à une préoccupation immédiate de l'opinion publique, mais voilà typiquement le genre de renforcement européen qui va dans le bon sens et qui permet justement de sensibiliser un peu tout le monde. Mais il y a encore du travail. Attention, quand je dis que certains pays sont moins sensibles que d'autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients du risque terroriste et de la menace terroriste. Ça veut simplement dire que dans leur priorité nationale, en matière de sécurité, ce n'est pas forcément la priorité numéro un.
Il y a une réponse commune qui devait être apportée, Olivier Chopin, en matière de lutte contre le terrorisme. Là, on retourne à un instrument qui est le PNR, le Passenger Name Record, qui est une mutualisation d'informations pour les passagers aériens. Ça a été voté par le Parlement européen. Je vais revenir d'ailleurs vers Arnaud Dangean aussi sur ce sujet. Mais est-ce que ce PNR, maintenant qu'il a été voté, on le voit se mettre en place ou bien est-ce que c'est encore quelque chose qu'on attend de voir mise en pratique?
C'est-à-dire qu'il faut aussi harmoniser toutes les législations nationales derrière sur le stockage des données et leur diffusion. Donc effectivement, entre le moment où on a l'idée que l'instrument est nécessaire, s'il est vraiment si nécessaire que cela, et le moment où le dispositif sera complètement actif, c'est pas, on n'y est pas encore.
Vous n'avez pas l'air convaincu totalement de la nécessité de cet instrument?
Bah si, alors bon, en soi on peut le faire, après c'est toujours la question du rapport entre liberté et sécurité, des coûts qui sont attachés à ce type de fichier. Les Américains ont un dispositif équivalent qu'ils ont, entre guillemets, internationalisé au sens où ils demandent à tous les pays d'y contribuer pour tous ceux qui veulent se rendre aux États-Unis. Ça n'empêche pas qu'il y ait des menaces qui passent par les aéroports malgré tout. C'est-à-dire que le problème c'est qu'il ne faut pas confondre l'outil et l'usage qu'on fera de l'outil, et surtout il ne faut pas imaginer qu'un outil en soi sera en mesure de sécuriser un espace ou une population. Donc le PNR, si vous voulez, j'ai pas de religion sur son utilité ou pas, c'est quelque chose qui est... C'est un énorme missile balistique pour taper un moustique, quoi, en quelque sorte, dans la conception. Alors, ce serait efficace s'il est assorti d'un certain nombre de garanties en termes de liberté, de respect des libertés et de la vie privée, et si surtout il a des traductions nationales qui sont conformes à chaque droit national à l'intérieur. Donc, c'est un énorme projet. Et ça, si vous voulez, c'est de la réponse à moyen long terme. C'est-à-dire que c'est pas du tout là-dessus qu'on peut imaginer que la mise en place d'un seul coup sécurise un espace ou un territoire. Vous voyez, ce sont des mesures qui pourront produire des effets bénéfiques sur le long terme si les conditions de sa mise en œuvre sont vraiment bien contrôlées dans toutes les dimensions.
Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Dangean?
Oui, globalement, oui, il n'y a pas de baguette magique. Donc, toute la présentation qui consistait à faire du PNR une baguette magique, c'était évidemment trompeur. Mais de la même façon que les arguties juridiques qui ont été opposées au PNR sur le fait que ça entravait les libertés, c'est trop intrusif et tout ça, c'était souvent des arguties qui recouvraient une hostilité de fond j'allais dire de nature idéologique, et on a perdu beaucoup trop de temps. Je crois, moi, de façon très pragmatique, que le PNR est un des instruments parmi d'autres. C'est effectivement un instrument assez massif, au sens propre du terme, hein, en matière de collecte de données. C'est un instrument qui était réclamé par les professionnels. Je pense qu'on vit une telle période qu'on ne peut pas se permettre d'éclipser ces demandes. C'était une bonne chose qu'on adopte enfin ce PNR. Maintenant, il faut effectivement ne pas s'illusionner sur sa mise en œuvre. Aujourd'hui, plus d'un an après le vote du Parlement européen, même s'il a trop tardé, il n'y a qu'une demi-douzaine de pays européens qui sont en mesure quasiment de finaliser cette année leur PNR, leur dispositif PNR, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut, comme ça vient d'être rappelé, il faut mettre en adéquation les légalités nationales avec les nouveaux instruments prévus pour le PNR, sans rentrer dans la technicité de ce dispositif. Il faut créer des cellules qui vont stocker les données, il faut les habiliter à le faire, il faut déterminer qui aura accès au PNR, selon quel type de procédure, il faut définir les procédures de recours par rapport à des citoyens qui se sentiraient lésés dans ce dispositif. Donc voilà, tout ça est très compliqué, très complexe. C'est évidemment quelque chose qui ne sera pas opérationnel très tôt. C'est pour ça d'ailleurs que je regrette qu'on ait perdu autant de temps avant de l'adopter. C'est pas une baguette magique, mais c'est un des instruments dont on peut plus faire l'économie aujourd'hui compte tenu de la diversité et de l'ampleur de la menace.
Vous avez insisté l'un et l'autre depuis le début de cette émission spéciale, et ce sera aussi une manière de conclure sur l'importance des coopérations bilatérales qui existent, donc d'État à État. Est-ce qu'il faut comprendre en creux que peut-être ces coopérations-là fonctionnent mieux que les coopération interne au pays? On a notamment eu un certain nombre de réformes du renseignement en France. Est-ce que s'il y avait un effort peut-être particulier à mener en termes de coopération, il faudrait d'abord le mener sur le territoire national, et je pense en particulier au territoire français, Olivier Chopin et Arnaud Dangean. Olivier Chopin, pour commencer.
Alors c'est vrai que parfois on a l'impression, si on regarde par exemple le rôle du directeur national du renseignement américain avec ses 16 agences, ou en France la progressive montée en puissance d'une coordination à l'échelle nationale de nos différents services. On a créé avec la loi sur le renseignement une communauté nationale du renseignement. Ça paraît parfois plus difficile de faire coopérer les différents services qui ont différentes missions et prérogatives à l'intérieur d'un État que de faire coopérer les services de type de service à type de service, c'est-à-dire le renseignement intérieur avec le FBI ou le MI5, le renseignement militaire avec la DIA, etc. Et ses homologues, parce qu'en fait les langages professionnels sont parfois les mêmes de pays à pays et pas du tout les mêmes du métier de militaire, de diplomate, de juge et d'agent du renseignement intérieur, extérieur, etc. À l'intérieur d'un même pays. Alors c'est vrai que là, pour un petit point sur les coopérations, effectivement, pendant qu'on discutait du PNR, etc., la France faisait sa loi sur le renseignement, s'inspirant largement des avancées dans un certain nombre d'autres pays, dont le Royaume-Uni. Depuis, le Royaume-Uni passe une loi, en fait, ils ont réformé leur loi de 2000 sur les pouvoirs de police et d'investigation de l'ensemble de leurs services de sécurité. Et dans cette loi britannique qui a été finalisée il y a quelques mois, on voit qu'ils se sont largement inspirés de la loi sur le renseignement française de 2015. Et donc là, on a des mécanismes de convergence possibles. Par exemple, effectivement, des convergences juridiques vont rendre possibles des échanges de données, par exemple d'interception de sécurité, qui n'étaient pas possibles dans aucun des deux systèmes de droit antérieurs. Donc il y a des nouvelles opportunités de coopération plus étroites et plus efficaces qui vont naître concrètement dans le plus grand silence. De conformité juridique, si vous voulez, de part et d'autre. Ce sont des opportunités, je ne peux pas vous dire si ça a été mis en œuvre ou pas, et si c'est efficace ou pas, parce que tout ça est complètement secret, mais on voit que les convergences juridiques vont parfois être plus efficaces que des gigantesques structures internationales.
Merci beaucoup Olivier Chopin, Arnaud Dangean, j'ai pas le temps de revenir vers vous, désolé, mais enfin en tout cas, merci de nous avoir précisé toutes ces choses sur ces questions de coopération en matière de lutte antiterroriste. On se quitte sur un instrumental du groupe Les Smiths, groupe majeur de la ville de Manchester, lorsque Manchester était la capitale mondiale du rock. Demain, Guillaume Erner et les Matins de France Culture seront en direct de Bruxelles pour évoquer à nouveau la lutte contre le terrorisme, en compagnie de Camille Grand, le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Merci à l'équipe du Grand, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Isolte Sicard, Marine Beccarelli, Louise Fuseau, émission réalisée par Alice Marie Barret avec à la prise de son Alexandre Dang. On se retrouve demain à 18h20 pour répondre à la question suivante. Peut-on encore rendre service gratuitement ? Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong, Mathilde Serrel et ses invités. Mathilde, qui sont-ils déjà ce soir?
Des invités qui sont presque présents. Lolita Chama est déjà avec nous autour de la table de Ping Pong pour Drôle d'oiseau qui sortira la semaine prochaine. Et Daniel Mesguich est dans un taxi. Il devrait arriver incessamment sous peu. Metteur en scène, directeur de théâtre, qui publie un livre autour de ses 40 ans de théâtre.
Et on vous retrouve avec le rappel des titres. Et le rappel des titres, c'est tout de suite avec vous, Tara Schlegel. Bonsoir.